Père, tu parles encore aujourd'hui et nous voulons maintenant t'écouter. Nous voulons que nos cœurs, Père éternel, se disposent entièrement à écouter ce que tu as à nous dire. Père, brise toute forme d'incrédulité dans nos vies. Brise toute barrière de préjugés, Père éternel, en nous. Mais donne-nous, Seigneur, de tirer le meilleur profit de ce moment d'édification. Point d'une onction spéciale, ton serviteur qui va parler en ton nom et agit, Père éternel, d'une manière puissante dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Glorifie ton nom encore au nom de Jésus. Amen. Jean chapitre 20, et versets 19 à 31. Je lis dans la version 8 secondes. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient fermées. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand ils eurent dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous retiendrez, vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des douze, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étaient fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. » Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Amen.
La paix et la paix. prions. Éternel Dieu, notre tendre Père céleste, nous te rendons grâce du fond de nos cœurs pour ce privilège que tu nous donnes d'être à ton écoute. Seigneur, dispose nos cœurs à recevoir ton message et permets à l'instrument que tu as choisi d'ouvrir la bouche et de te laisser parler. Viens, Seigneur, règne tout au long de ce temps que tu nous réserves pour nous parler. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ceux qui savent quelle est la condition psychologique qui est la mienne depuis une semaine seraient peut-être surpris de me voir à la chaire ce dimanche. Cette surprise, qui sera d'ailleurs dissipée à la fin de ce message, apparaît cependant comme un excellent prélude à la méditation des textes qui nous sont proposés. En effet, en étudiant le contexte du passage de l'Évangile dont nous venons d'écouter la lecture, chacun de nous peut se rendre compte que la réalité qui est décrite a été au moins une fois la sienne, même si ce n'est pas le cas. Ne sachant de quoi le lendemain sera fait, il est tout à fait intéressant de prêter attention. En réalité, il y a des moments dans la vie où parmi vos piliers, l'un des plus robustes vient à s'écrouler. Vous êtes alors tout naturellement désemparé devant la dure réalité. Cela a été le cas pour les disciples dans le passage que nous venons de lire. Ils venaient de perdre celui en qui ils avaient placé tout leur espoir, même si c'était pour des raisons diverses. Mais plus grave, ils étaient pourchassés et ils étaient privés de tout secours. Parfois, dans nos moments difficiles, nous avons la compassion de nos proches, leur marque de sympathie et même l'assistance multiforme. Mais les disciples étaient seuls, isolés, enfermés. Ils n'avaient aucun secours. Quoi qu'il en soit, il est judicieux d'appréhender les contours des situations difficiles que nous traversons. Il est aussi intéressant de rechercher leur portée spirituelle. Et surtout, il est sage de savoir comment on va s'en sortir. C'est cela l'intérêt du message de ce jour. Dimanche passé, nous avons célébré la Pâque avec plus ou moins de pompe. Certains étaient enthousiasmés par l'ambiance de la fête. D'autres étaient profondément marqués par l'ampleur de cet événement dans leur vie de foi. On ne pourrait peut-être plus demander aux uns et aux autres quelle est la signification de la Pâque. Mais on pourrait s'appesantir sur la portée de la résurrection de Christ dans nos vies. Les disciples, en leur temps, ont vécu l'impact de cet événement à leur façon. Mais qu'en est-il de nous, chrétiens d'aujourd'hui? Nous allons examiner cette question sur quatre axes. Premier axe, plusieurs personnes, parmi lesquelles certains chrétiens, considèrent le récit biblique de la résurrection comme des contes fabuleux, c'est-à-dire des fables. Cette attitude malheureuse découle sûrement du caractère mystérieux de cet événement. Cette appréhension erronée démontre que les gens ne sont pas bibliquement bien cultivés ou alors qu'ils sont spirituellement immatures. Cela pousse beaucoup de gens au syncrétisme religieux, c'est-à-dire on croit à tout. Le culte des crânes, la vénération des saints et des statues, l'usage des reliques et des artifices dévotionnels, comme le chapelet et autres, les rituels mystiques et ésotériques lors des festivals et autres cérémonies apparaissent comme autant de tentatives humaines de rechercher un médiateur entre l'au-delà et le monde de vivants. Mais quelle ignorance! Car tous ces efforts, aussi élaborés qu'ils soient, manquent de sagesse et sont par conséquent vains et voués à l'échec. La résurrection de Christ est non seulement une manifestation à la fois physique, factuelle, c'est-à-dire concrète et active, mais elle est également une révélation d'ordre spirituel. Dans quelle autre religion, bien-aimée, le fondement de la foi est-il aussi solidement établi? Il va falloir que nous puissions bien répondre à cette question. Nous, chrétiens du dimanche, dont la foi est très souvent en ballottage défavorable face aux circonstances de la vie. Oui, face aux épreuves, nous perdons facilement les pédales et comme ses disciples, nous nous enfermons dans toutes sortes de prisons au détriment de l'audace de la foi. Jésus, par sa résurrection, nous garantit sa présence rassurante en tout temps et en tout lieu. À preuve, deux disciples ont fait route avec lui sur le chemin d'Emmaüs. Ceux qui étaient enfermés l'ont vu en chair et en os. Lorsqu'il se présenta à eux, deux fois de suite, bien que les portes fussent fermées. Thomas l'a touché de ses propres mains. Jean, exilé sur l'île de Patmos, l'a vu en visite dans une vision. Aussi, dans la même logique, la résurrection de Christ, en tant que manifestation de la victoire sur la mort, est l'assurance inébranlable de la vraie vie. C'est pour cela que, lors de ces apparitions, la joie et le partage des disciples et Christ ressuscité leur apportent la paix, sa paix, dont nous savons qu'elle surpasse toute intelligence. Mieux, avec les disciples d'Emmaüs, ils rompent le pain, acte dont la valeur symbolique quant à la vie est hautement significative. Faire véritablement la rencontre du Christ ressuscité apparaît donc comme une expérience unique et salutaire. Bien-aimé, qu'en est-il de toi? As-tu déjà rencontré le Christ ressuscité? Si oui, comment cela s'est-il passé? Peux-tu seulement en faire une description concrète? Ou alors le portrait de Christ comme Jean dans Apocalypse 1, 13 à 16, l'a fait. Si tu ne le peux, alors la portée de la résurrection de Christ dans ta vie est encore problématique. Bien-aimé, voici le moment favorable, car la résurrection de Christ est l'évidence indiscutable de sa présence dans nos vies, non seulement maintenant, mais pour l'éternité. Deuxième axe. Au lendemain de la commémoration de la résurrection de Christ, il n'est pas seulement question d'évaluer ta relation avec le Christ ressuscité, mais il s'agit aussi d'identifier les obstacles qui mettent à mal la qualité de cette relation. Le texte que nous avons écouté met en lumière, mais de manière discrète, la contrariété, l'adversité, les tribulations, les motivations nébuleuses, c'est-à-dire peu sincères, les convictions ambiguës c'est-à-dire malhonnête, et le manque d'audace, sans oublier le doute. Malheureusement, autour de nous et même dans l'Église, il y a de nombreuses manifestations de ces attitudes-là. Tenez, autour de nous, il y a des bien-aimés qui détruisent leur propre foi. Ce faisant, ils ruinent en même temps celle des autres. C'est ainsi que des frères et sœurs, dont la foi est encore au stade de l'allaitement, souffrent des écarts de certains aînés dans la foi, au point de s'enfermer dans la frustration, alors que d'autres sombrent dans le découragement, même dans le reniement de la foi. Il s'agit d'un désastre évangélique qui est causé par l'obscurantisme spirituel, c'est-à-dire on refuse de regarder les choses à la lumière de l'Évangile, l'excès de zèle, l'entêtement des Juifs de notre ère, dont la seule présence dans nos communautés freine la croissance de l'Église de Christ. Oui, à l'image des Juifs de notre texte, ils se trouvent dans nos églises, dans nos communautés, dans nos groupes, dans les collèges d'anciens, de conseillers paroissiaux, diacres et autres, dans nos familles, un leadership qu'on dirait poussif, c'est-à-dire non convaincant. Il s'agit de curieux responsables qui ont pour seule vérité leur propre réflexion et qui la font prévaloir au mépris de la parole de Dieu. Il est indéniable qu'il y a des Moïse, mais il est aussi évident qu'il y a des Aaron qui cèdent aux pressions malveillantes de tous ordres et deviennent maîtres dans l'art de l'idolâtrie sous plusieurs formes. Oui, comme les disciples d'Emmaüs, déclarant qu'ils avaient cru que Christ les délivrerait de la tutelle romaine, plusieurs chrétiens ont encore de nos jours des motivations peu sincères. Ce sont les pharisiens des temps modernes qui manipulent avec subtilité la conscience du peuple de Dieu à travers des déclarations incendiaires, même dans les assemblées, le relais des informations non fondées, la diffusion active et non autorisée des résolutions, des assises et des conclaves de l'Église. Ce sont des experts de la désinformation tendancieuse, c'est-à-dire à des visées non sérieuses. Il s'agit aussi des gens qui amplifient les malentendus, nourrissent les incompréhensions, insinuent des raisonnements sans scrupules, attisent les préjugés, suscitent les conflits. Et comme la foule versatile qui disait hier « gloire à Dieu » et qui le lendemain disait « crucifie-le », le peuple de Dieu se distingue par des convictions fortement ambiguës et suivent ces prêcheurs de mauvaises nouvelles. Ce sont des chrétiens dont la foi vacille au gré des intérêts et change de ferveur selon des analyses malicieuses, c'est-à-dire mal intentionnées. Ils font des réflexions impertinentes sur tout ce qui se passe et même sur leur prochain. Murmurent au sujet des bergers, disent toutes sortes de sornettes au sujet de l'église et de la paroisse. Et quand la tête du pasteur ne leur plaît pas, ils changent de paroisse. Ils font même varier leur quête en fonction des critères qui étonnent la Bible. Bien-aimés, nous nous rendons compte que les bancs de nos paroisses sont encombrés par des religieux qui n'ont rien compris de la résurrection de Christ. Les œuvres de ténèbres, les œuvres de la chair, constituent l'esquive la plus réussie à l'impact de la résurrection de Christ dans nos vies. Puissions-nous, bien-aimés, nous distinguer comme lumière du monde et celle de la terre, car, si nous ne le savons pas, la résurrection de Christ expose les fossoyeurs de la foi, c'est-à-dire ceux qui détruisent la foi. troisième axe. S'il est évident que la commémoration de la résurrection de Christ ne peut avoir de portée réelle dans nos vies que dans la mesure où l'évaluation de notre relation au Christ ressuscité est enclenchée sans complaisance, cette estimation ne serait efficiente qu'à partir du moment où l'identification des menaces à cette relation aurait été effectuée avec rigueur. Ces deux préalables révèlent notre caractère par rapport à Christ et nous donnent de nous déterminer comme disciples et surtout de savoir à quelle catégorie de disciples nous appartenons. Le texte que nous avons écouté distingue trois catégories de disciples. Il y a le disciple de Christ. Il y a le disciple du Christ crucifié. Et il y a le disciple du Christ ressuscité. Le disciple de Christ est un chrétien plus enthousiaste que convaincu. Il n'est pas du tout accompli. Le renoncement n'est pas son affaire. Il se comporte comme un militant du parti politique. Sa foi dépend des enjeux stratégiques, comme le témoigne la déclaration des disciples d'Emmaüs. Comme les fils de Zébédée, il recherche son propre intérêt, le disciple de Christ, à travers la quête des privilèges et des positions, dans l'Église comme en dehors. Comme Judas Iscariote, il a des visées matérialistes. Bref, sa foi dépend de la réalisation de ses ambitions personnelles ou de la satisfaction de ses attentes. Évidemment, face à l'adversité, il abandonne son maître et va même jusqu'à le trahir. Le disciple du Christ crucifié porte sa croix. Il est confronté à l'épreuve de la foi. Il traverse des tribulations du fait à sa soumission au maître. C'est le cas de Jean, exilé dans l'île de Patmos. Cependant, il reste persévérant dans la foi. C'est aussi le cas des disciples enfermés par crainte des Juifs, mais ils demeurent ensemble dans l'unité de la foi. C'est également le cas de Thomas, presque en divagation, en proie à l'errance, enclin au doute, mais au bout du compte, il préserve sa foi. Il y a le disciple du Christ ressuscité. Il est un être renouvelé du fait qu'il accepte de partager avec Christ la vie du ressuscité à travers le don du Saint-Esprit. Bien-aimé, peut-on effectivement rencontrer le Christ ressuscité et rester le même qu'avant? Cela n'est pas du tout possible, selon le dessein de Dieu. Les disciples cités l'ont bel et bien démontré. Nous retenons, comme nous venons de le dire, la magnifique confession de Thomas, « Mon Seigneur et mon Dieu ». Les disciples d'Emmaüs, quant à eux, diront que leur cœur brûlait au-dedans d'eux lorsque le ressuscité leur expliquait les Écritures. Les disciples enfermés furent dans la joie en voyant le Seigneur ressuscité. Jean, exilé et isolé dans l'île de Patmos, est disposé à écrire sur ordre du Seigneur les lettres destinées aux sept églises. Et c'est également dans les mêmes dispositions d'esprit que les apôtres, dont Pierre et Paul, font connaître un succès toujours croissant dans le témoignage. Nous trouvons ça dans Actes 5. Cependant, en ce qui nous concerne, bien-aimés, notre endurcissement ou alors notre complaisance spirituelle fait ternir en nous la vie du ressuscité, au point où elle est encore pour certains un lointain rivage et pour d'autres un mirage, c'est-à-dire quelque chose qui n'est pas concrète. Sinon, comment comprendre le manque de ferveur spirituelle lors de nos moments de louange? Comment comprendre la baisse des effectifs lors de nos moments d'édification et de prière? Comment comprendre le manque d'engouement que les paroissiens ont à mettre leurs dons et talents au service de la communauté? Comment comprendre que certaines commissions paroissiales fonctionnent comme des morts vivants? Comment comprendre l'indiscipline caractérisée qui sévit dans nos chorales? Oui. Comment comprendre le témoignage désolant qui nous accable de la part de nos parents, de la part de nos enfants, de la part de nos conjoints et même d'autres membres de nos familles? Oui, que disent nos chefs hiérarchiques, nos employés, nos collègues, nos camarades de notre témoignage en tant que disciples du Christ ressuscité? Nos voisins, nos clients, nos usagers, nos connaissances voient-ils en nous la gloire de la résurrection de Christ? En admettant même que nous soyons disciples, de qui sommes-nous réellement disciples? À supposer que nous nous réclamions même de Christ, à quelle catégorie appartenons-nous vraiment? Si nous ne pouvons répondre avec clarté à ces questions, il est temps de reconsidérer la portée de cet événement majeur dans notre vie. Car, bien-aimés, la résurrection de Christ nous offre la grâce de clarifier notre statut de disciple. Quatrième axe. Si ton statut de disciple est clairement clarifié, tu es un privilégié au cas où tu te reconnais humblement comme disciple du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité manifeste un intérêt particulièrement remarquable pour les siens. Cela se voit sur le chemin d'Emmaüs. C'est ce que témoignent ses multiples apparitions. C'est également ce que traduit l'ordre de mission dans Jean 20, verset 21. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et dans Apocalypse 1, il dira à Jean, écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Chers frères et sœurs en Christ, confie-t-on une telle tâche aux personnes indignes de confiance? Non. Alors, mon frère, ma sœur, as-tu déjà identifié ce que le Christ ressuscité te confie? Car ne l'oublie pas, nous faisons fonction d'ambassadeur pour Christ. 2 Corinthiens 5, verset 20. Si tu t'estimes héritier ou héritière de Christ, c'est bel et bien en richesse, en puissance, en royauté éternelle, mais c'est aussi en termes de ministère. Pour cela, sache que ta restauration est un impératif catégorique. Dans l'évangile de ce jour, Jésus établit cette restauration sur trois ressorts légaux sans lesquels nul ne peut prétendre assumer légitimement cet héritage missionnaire. Premièrement, la paix de Christ qui libère. Deuxièmement, la joie qui manifeste la liberté en Christ. Et troisièmement, le don du Saint-Esprit qui garantit l'action pour Christ. Bien-aimé, es-tu véritablement restauré et disposé pour la mission que Christ confie? Si tel est le cas, il y a des responsabilités. Première responsabilité, tu es appelé à déployer ton potentiel évangélique. Dans cette perspective, l'objectif à atteindre est celui-ci. Acte 5, verset 14 à 16. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, s'augmentait de plus en plus, etc. Bien-aimés, il y a une série d'activités d'évangélisation qui sont annoncées dans notre communauté. Ce sera le test grandeur nature pour toi, si seulement tu es disciple du Christ ressuscité, qui a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. un autre fondement dans Jean 20, verset 30, ou dans Actes 5, verset 12, qui dit « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres. » Combien de miracles, toi, apôtre, disciple du Christ ressuscité, as-tu déjà réalisé dans ta vie? Combien de miracles? Deuxième responsabilité, tu dois t'atteler à bâtir la communion fraternelle en t'illustrant comme chantre du vrai amour, artisan de la paix et apôtre de la réconciliation. Pour ce faire, tu auras pour credo ce triptyque. La paix véritable n'existe pas sans pardon. Premier élément du triptyque. Deuxième élément du triptyque, le pardon sincère conduit à la réconciliation. Dernier élément du triptyque, la réconciliation honnête scelle l'amour selon Dieu. Et c'est pour cela que Jésus va dire trois fois de suite dans le même texte, la paix soit avec vous. Et dans le texte de Actes des Apôtres, on dit que les disciples se tenaient tous ensemble. Et ceux à qui vous pardonnerez le péché, ils leur seront pardonnés. Troisième responsabilité, tu te feras aussi le devoir d'assurer l'intégrité de l'Église, corps du Christ. Et c'est dans ce sens que Jésus, apparaissant à Jean, lui dit, ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept églises. Bien-aimé, quel est le contenu de la lettre que tu dois écrire pour l'Église évangélique du Cameroun? Quel est le contenu de la lettre que tu dois écrire pour la paroisse de Tamdja? Quel est le contenu de la lettre que tu dois écrire pour ta famille, pour tes collègues, pour tous ceux que tu rencontres, pour ceux que tu rencontreras lors des campagnes d'évangélisation? Il faut y mettre un contenu. Et pour que ce contenu soit légitime, il faut être le disciple du Christ ressuscité. Lorsque face à ceux qui prônent la zizanie et prêchent la désintégration de l'Église pour des intérêts égoïstes et des desseins inavoués, toi, le disciple du Christ ressuscité, tu éviteras de t'enfermer dans les vaines querelles de clochers. Tu seras en train d'œuvrer comme disciple du Christ ressuscité pour la restauration de son corps qui est encore plusieurs fois mutilé par les pharisiens contemporains. Au bout du compte, en évaluant tes fonctions d'ambassadeur pour Christ, peux-tu en toute sérénité présenter l'état réel de cet héritage que Christ a confié à travers l'ordre de mission? Si ton bilan ressemble à celui de l'enfant prodigue, n'endurcis pas ton cœur. Il faut tout simplement oser recommencer. Car la résurrection de Christ comporte l'appel à l'audace missionnaire. Je ne vais pas terminer sans faire un témoignage. Vendredi passé, vendredi saint, dans la soirée, alors que je m'apprêtais pour aller à la clôture régionale du carême, j'ai été saisi d'une torpeur au point où, jusqu'à 22 heures, je n'ai pas pu quitter la maison. À 22h30, mon téléphone a sonné et on m'a dit, papa a chuté et a perdu connaissance. Par téléphone, nous avons pris des dispositions pour l'amener à l'hôpital, ce qui a été fait promptement. À minuit 25, mon téléphone a sonné une deuxième fois pour qu'on m'annonce que papa a rendu l'âme. Ma situation sur le champ ressemblait à quelques détails près à celle des disciples qui venaient de perdre leur maître, une disparition physique. Et lorsque j'ai appris cette triste nouvelle, naturellement, je suis tombé dans la faiblesse humaine et du coup j'ai dit, la prédication qu'on m'a confiée là, je ne vais plus la faire. Mais l'Esprit de Dieu m'a repris dans son œuvre de consolation et m'a poussé à méditer à nouveau ce texte qui m'avait été confié quelques semaines plus tôt. Et cette méditation m'a permis de faire face à l'épreuve. Et je me suis posé la question. Que signifierait mon abandon de cet appel à prêcher le dimanche 28? Ce serait certainement une façon de m'enfermer comme ces disciples frappés par la disparition de leur maître. Et le Saint-Esprit m'a révélé que la prédication que je préparais depuis quelques jours était l'œuvre de Dieu pour son peuple et que c'est moi que Dieu avait choisi pour être l'instrument pour passer ce message. L'Esprit de Dieu m'a aussi donné de saisir ce moment, le moment-ci, pour rendre grâce à Dieu pour mon père. Parce que mon père a été l'un des premiers prédicateurs laïcs de l'Église évangélique, à l'époque où on lançait cette formation. Et mon père a toujours prêché jusqu'en 2017, où il est devenu ancien honoraire. Mon père a toujours, lorsqu'il était sollicité, il a toujours été traducteur en langue maternelle de toutes les prédications pendant le temps où il a été ancien. Et j'ai dit, Seigneur, merci de m'avoir révélé cela, parce que je vais prêcher pour rendre grâce à Dieu. En conclusion, la résurrection de Christ nous libère des prisons dans lesquelles nous ont enfermés les péripéties de la vie. La résurrection de Christ nous sort de la routine religieuse pour nous engager dans une responsabilité spirituelle plus dynamique. Ainsi, au lendemain de la commémoration de la Pâque, qu'est-ce qui a changé dans notre vie de chrétien en bien? Ne sommes-nous pas retournés dans nos habitudes qui ont la réputation d'avoir la peau dure, même au double tranchant de l'épée de la parole de Dieu? Ce dimanche, bien-aimé, le Christ ressuscité entre dans ta vie. Il ne demande pas ta permission. Les portes sont fermées. Il entre dans ta vie pour que tu recommences une nouvelle vie avec lui. Une vie de paix, une vie de joie, mais surtout une vie en compagnie du Saint-Esprit. Non pour la jouissance passive, mais pour la mission. Oui, en te passant le témoin pour le ministère, le Christ ressuscité te garantit sa présence. Il t'aide à clarifier ton statut de disciple. Il t'aide aussi à identifier les fossoyeurs, c'est-à-dire les destructeurs de ta foi. Alors, lève-toi et brille, car tu es désormais éligible à la vie du ressuscité. En plus, même si tu marches dans la vallée de l'ombre de la mort, ne crains aucun mal, car Christ ce matin te dit, ma vie, elle est pour toi. Alors, bien-aimé, va et témoigne le Christ ressuscité. Amen.